on va ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 8, c'est un texte que vous connaissez tous. Vous avez sûrement dû entendre des prédicateurs prêcher sur cela. Et ce matin, j'avais à cœur de partager cette pensée, cette bataille où on voit la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Exode 17, verset 8, il nous y dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Amen. Gloire à Dieu. Comme je le disais, ici dans ce texte, dans ce récit, nous voyons une bataille formidable entre le peuple de Dieu et Amalek. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une victoire éclatante d'Israël sur son ennemi. Dans cette bataille, que d'enseignements pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Et le premier enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec son peuple. Il est le grand fidèle. Il est celui qui soutient dans le combat que nous menons son peuple. Et nous menons un combat. Et ce combat, nous pouvons le rapporter que dans la prière. Je crois à la puissance de la prière. Je crois que la prière est là pour que Dieu agisse au travers de son peuple. Et Dieu nous encourage, comme nous l'avons chanté, à persévérer, à garder la foi en celui qui peut tout. Car nous vivons des moments difficiles, nous vivons des temps difficiles, et ça va être de plus en plus dur. Mais dans ces moments difficiles, gardons la foi, mon frère et ma sœur. Parce que Dieu est le grand fidèle. Il est celui qui nous donne la victoire. Alléluia. Nous pouvons compter donc sur cette fidélité chaque jour. Pour retracer un peu le contexte historique, alors que le peuple, on connaît tous cette histoire, est sorti d'Égypte, qu'il marche en direction de la terre promise, le pays de Canaan, une marche qui ne va pas se faire dans la simplicité. Un peuple qui ne va pas arrêter en plus de murmurer contre Dieu. Un peuple qui ne va pas arrêter de murmurer contre le serviteur de Dieu. Mais en fin de compte, c'est un peuple qui va être quand même béni par Dieu. Et on voit que cette marche ne va pas se faire dans la simplicité, comme je le disais. Ça va ne pas être facile. Dieu avait fait une promesse et il tient toujours ses promesses. De nous conduire dans ce pays promis. Vous savez que Dieu tient ses promesses et il veut vous conduire chacun d'entre nous dans ce beau pays là-haut. Et c'est vrai que cette marche ici-bas sur cette terre, elle n'est pas facile. L'autre fois, je crois que je l'ai dit à l'église de Vennes, quand je parle de Dieu, quand je parle de l'évangile, beaucoup de personnes me disent « ce sont les faibles qui s'engagent dans l'évangile ». Viens, tu vas voir si c'est les faibles qui s'engagent dans l'Évangile. Parce que les chrétiens ne sont pas épargnés. Dans cette marche, c'est une marche délicate. Et retenons le son. Parce qu'en fin de compte, le peuple hébreu, c'est l'Église. Un peuple qui n'a pas arrêté de murmurer. Quelle réaction vas-tu avoir face à la difficulté? Chaque fois qu'il y avait une difficulté, le peuple, au lieu de garder la foi... Parce que Dieu était présent, Dieu était dans cette marche. Chaque jour, il était là, une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Dieu est subvenu à tous leurs besoins, mais malgré cela, quand il y avait une difficulté, il remettait en doute la grandeur, la fidélité de Dieu, un peuple au cou raide. Mais prenons exemple, par exemple, pardon, prenons avertissement. Comment dire ça? Oui, prenons. Bon, ferme la parenthèse. J'arrive pas à le dire, le maudit. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Alléluia. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Combien de fois, aujourd'hui, quand tout va mal, on croit que Dieu nous a abandonnés, on lève le poing contre Dieu. Combien de fois, quand la difficulté est là, on remet même en question l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et pourtant, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Il ne t'abandonnera pas. Prenons exemple, oui, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que j'ai retracé le contexte historique, parce qu'il va y avoir cette fameuse bataille. Cette marche ne va pas se faire dans la simplicité. L'opposition, Amalek est là et veut arrêter le peuple de Dieu. Et cette attaque, elle vient aussitôt après que le peuple tente Dieu. Parce que si vous lisez le chapitre auparavant, on voit que ce peuple, comme je le disais, va tenter Dieu. Ils arrivent, ils ont soif. Ils vont murmurer. Mais Dieu va bénir. Et là, Satan pense que c'est le moment favorable. Satan, dans sa tête, parce que nous avons à combattre contre les puissances des ténèbres, il pense dans sa tête qu'un peuple qui a osé murmurer, qui a osé remettre en question la fidélité de Dieu, que ce peuple ne va pas être secouru par le Dieu vivant et vrai. Satan, il pense que c'est le moment favorable. Un peuple qui a murmuré, mais malgré cela, on voit que Dieu est fidèle, que Dieu est là. Amalek, vous l'avez tous compris, c'est l'image de l'adversaire, celui qui veut arrêter l'Église, celui qui veut t'arrêter dans ta vie spirituelle, dans ta marche spirituelle, celui qui veut te mettre dans une prison qui s'appelle le découragement. Et je crois que quand une Église veut avancer, et je crois que les gapensés veulent avancer, que les embrunés veulent avancer, pour que des âmes se tournent vers le Dieu vivant et vrai, on va rencontrer de l'opposition. Ça ne va pas être une marche facile. On va rencontrer Amalek, c'est-à-dire Satan. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu est avec nous. Quand une église veut avancer, quand elle est unie et remplie de l'Esprit, rien ne peut l'arrêter. On peut rencontrer des barrières, mais rien ne peut l'arrêter. Vous vous rendez compte que la descendance d'Amalek, quand je lis 1 Chronique 1, versets 35 à 36, il nous est dit que fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhuès, Jaélam et Coré, fils d'Éliphaz, Théman, Omar, Tsefi, Gaïtan, Kenaz, Timan et Amalek. C'est-à-dire que Amalek est un descendant d'Ésaü. Et vous connaissez tous Ésaü et Jacob. Jacob le rusé qui va tenter Ésaü. Mais en fin de compte, Ésaü, c'est vraiment l'image d'une personne qui est conduite par la chair, qui n'est pas conduite par l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a méprisé la bénédiction de Dieu. Et tout le long de la Bible, nous retrouvons les descendants d'Ésaü comme des personnes qui vont s'opposer au plan de Dieu, à Dieu lui-même. Et la descendance d'Ésaü, on voit Amalek. Amalek qui va s'opposer. Donc Amalek, c'est vraiment Satan, mais Amalek également a cette signification de la nature charnelle de l'homme. Amalek, c'est la chair. Et je crois qu'il y a une lutte contre les puissances des ténèbres, mais il y a également une lutte contre notre chair. Dans Romains 7, verset 18, l'apôtre Paul dira, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et il dit, à cause de cette présence de moi, il y a une lutte permanente contre ma chair, contre la tentation. C'est comme nous l'avons lu dans Exode 17, verset 16, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et cette guerre, elle sera jusqu'au bout, jusqu'à ce que nos yeux voient celui qui nous a sauvés. Et durant toute notre vie chrétienne, il y aura ce combat contre notre chair, contre notre caractère, face à la tentation, face au péché. 1 Corinthiens 15, verset 20, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et nous savons que, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Donc, en fin de compte, Satan, je parle beaucoup de lui ce matin, c'est celui qui élève la chair. Satan sera toujours celui qui va essayer de nous élever, de dire on est quelqu'un. Regardez dans Nombre 24, verset 20, Balaam, le faux prophète, le médium, va dire à propos d'Amalek, Amalek est la première des nations, Amalek. Pourtant, Amalek va s'opposer au peuple de Dieu. En fin de compte, la ruse et le plan de Satan, c'est toujours le même. Élever, exalter la chair. Il veut que le peuple de Dieu marche selon la chair, mais que Dieu nous aide à marcher selon l'esprit du Dieu vivant et vrai. Regardez l'exemple d'Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Exemple de Jésus également. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Il va l'élever. Qu'est-ce qui élève l'homme? Qu'est-ce qui le met en avant? Qu'est-ce qui le met sur un piédestal qui se prend pour un dieu aujourd'hui? C'est Satan, parce qu'il sait qu'en flattant la chair, il prépare la chute et il prépare l'humiliation. Oh, que Dieu nous garde de l'orgueil. Quand l'orgueil vient à frapper à ta porte, essaye de le chasser, cet orgueil. Combien de fois il a essayé de frapper et il a frappé à la porte de mon cœur. Et quand je me suis cru quelqu'un, aïe, aïe, aïe. Croyez-moi. Donc il y a toujours ce combat entre l'esprit et la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, la chair, elle s'irrite. La chair, elle murmure. La chair, elle ne pardonne pas. Ou la chair dit, je pardonne, mais j'oublie pas. La chair ne supporte rien. Ne supporte même plus les frères et sœurs. Mais l'esprit aime. L'esprit pardonne. L'esprit supporte tout. L'esprit encourage, relève. Mon frère et ma sœur, dans les derniers temps, soyons animés de l'esprit du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Le nom d'Amalek a également trois significations. Je l'ai comparé à Satan. La guerre que nous menons également contre la chair, mais elle a trois significations. Amalek, la première signification veut dire guerrier. Et il y a des choses qui font la guerre. Pierre parle de la convoitise. 1 Pierre 2, verset 11, il nous est dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amalek, la première signification, c'est guerre. Et Pierre parle de la convoitise. Je crois qu'un véritable chrétien ne convoite pas son prochain. Aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance à convoiter, à vouloir ce qu'on n'a pas, à vouloir ce que le voisin a. Tu as vu cette télé, elle fait 1,20 m. Mais moi, j'en ai une qui fait 1,30 m. Et le gars, il m'en a acheté une de 1,40 m. Faisons attention. Je parle comme si je parlais aux embrunés ce matin. Faisons attention au matériel et à la convoitise. Faisons très attention, parce que la convoitise est appelée trompeuse. Elle nous trompe, elle nous erronne. Éphésiens 4, verset 22, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Elle est aussi appelée impie dans Jude 1, verset 18, marchant selon leur convoitise impie. Mais nous, on marche en nouveauté de vie, alléluia. La deuxième signification d'Amalek, celui qui lèche, celui qui lape. Et celui qui lèche, celui qui lape pour boire, ce sont les animaux. Cela me fait dire, ne nous rabaissons pas au rang d'un animal. N'oublions pas que Dieu nous a créés supérieurs à eux. Tu domineras sur eux. Et n'oublions pas que Dieu nous a créés à son image. Mais en fin de compte, là où je veux attirer votre attention, c'est dans Proverbes 26, verset 11. Il nous est dit, comme un chien qui retourne à ceux qu'il a vomis, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et 2 Pierre 2, verset 22, il nous est dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Il n'y en a pas sur Gap, alléluia. Je bénis le Seigneur. Mais Amalek va tout faire, va tout essayer pour nous faire chuter, pour qu'on retourne à notre ancienne vie qui n'était pas à la gloire de Dieu. La tentation est là, le péché frappe à la porte de ton cœur, mais résiste-lui et Dieu t'aidera. Amalek, c'est ça en fin de compte. Le rusé, c'est cela. Il convoite. Et après, il veut qu'on retourne à notre péché. Mais là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est Amalek a une troisième signification. C'est habitant des vallées. Et en effet, quand nous lisons Nombre 14, versets 24 à 25, il nous est dit, « Et parce que mon serviteur Caleb, vous connaissez ce récit, a été animé de notre esprit. » Vous savez, l'esprit du Dieu vivant est vrai, pas l'esprit de la chair. Et qui a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, tiens, on les retrouve, et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez par le désert dans la direction de la mer Rouge. Ici, c'est le récit de Caleb, qui a exploré le pays promis. Deux sont revenus avec l'esprit du Dieu vivant et vrai. Encourager le peuple, et 10 ont été animés de l'esprit de la chair. On n'y arrivera pas, c'est trop dur, il y a des géants devant nous. La société a changé, c'est trop dur aujourd'hui. C'est pas évident, il y a comme des géants des montagnes. Soyons animés de l'esprit de Caleb et de Josué. Donc les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Et Dieu nous encourage à ne pas rester dans la vallée, ne pas rester dans la plaine. Dieu nous encourage à monter vers la montagne de Dieu, à ne pas diriger nos regards sur la vallée, sur la plaine, à ne pas diriger les regards sur ce qui est grand, sur nos difficultés, sur nos oppositions. Mais à diriger nos regards sur celui qui peut enlever nos difficultés, à diriger nos regards sur celui qui peut tout. Parce que la montagne, c'est là où Dieu nous attend. Dans Exode 3, verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Je le répète, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu nous attend dans la montagne spirituelle. J'essaye de rester là, mais je n'y arrive pas. Dieu nous encourage à aller le rencontrer dans la montagne. La montagne est le symbole de l'effort spirituel. Quand on a fait un col, c'est dur, hein, mes frères et sœurs. J'ai voulu faire le Morgon. Je l'ai fait. C'était facile. Bon, ça va. Et après, un frère m'a dit, mais il faudrait que tu fasses le Mont Guillaume. Bon, là, il me dit, Pascal, c'est un peu plus dur. Avant de partir, c'est bien que tu le fasses. Et au début, bon, on prend les chaussures, tout, hein, on est bien équipé. Et on marche, et on marche, et on marche, et on marche, et on marche. Une heure, deux heures. Je dis, jamais, viens cette montagne, là. Trois heures. Et au bout des, peut-être du dernier 500 mètres les plus difficiles, mon frère et ma sœur, des pierres. Je ne sais pas s'il y en a un qui l'a fait, le Mont Guillaume. Magnifique. Mais que des pierres, et que des pierres, et que des pierres. Il y avait quelque chose qui me disait, allez, tu es au bout, allez, tu es au bout. Persévère, tu vas y arriver. Et quand je suis arrivé là-haut, oh Seigneur, que c'est beau. C'est magnifique. Mais combien de fois il y a une voix qui me disait, oh, ben, c'est pas grave, tu auras fait les trois quarts, c'est déjà beau, non? Mais avec Dieu, ce n'est pas les trois quarts. C'est jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. Et des fois, c'est dur. Mais quand on arrive à la montagne, quand j'ai vu, je voyais même Marseille. Ça, il ne faut pas l'enregistrer. Hein? Mais quand on est en haut de la montagne, on dirait que tout s'éclaircit. Notre vision, elle s'élargit. On voit mieux. On voit au loin. Quand on est en haut de la montagne, on voit les choses au loin. Et nous avons besoin de monter à la montagne parce que des fois, nous allons nous retrouver dans la vallée. Et dans la vallée, c'est tout le contraire. La vallée, c'est un entonnoir. La vallée, on ne voit pas au loin. Et combien de fois vous vous dites, mais je ne sais pas où Dieu veut me conduire. Je ne sais pas où est la volonté de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas évident de chercher, de savoir le plan de Dieu pour notre vie. Mais ce que Dieu te demande, c'est de monter à la montagne. Et là, tout va s'élargir. C'est dans la prière, c'est dans la tête, un tête-à-tête avec lui. Que Dieu va te guider, que Dieu va te diriger. Que Dieu va te conduire, t'amener là où il veut. Regardez l'exemple de Lot et Abraham. J'en cite beaucoup ce matin des exemples. Qu'il n'y ait point entre nous querelle. Va à droite, j'irai à gauche. Va à gauche, j'irai à droite. Ou descend. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lot? Il est allé à la plaine. Il semblerait qu'à la plaine, il y a de la belle verdure. Il y a tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce qu'il y avait le plan de Dieu pour Lot? Non. Moi, ça m'a toujours étonné que Lot se soit si facilement laissé séduire avec tout ce qu'il avait vu. Moi, je me serais accroché à Abraham. Hein. Où tu vas? À droite? Je vais à droite. Où tu vas? À gauche? Ben, je vais à gauche. Ouais, mais il y a des problèmes avec les bergers. Mais ce n'est pas grave, on va prier, on va résoudre. On va s'attendre à la grâce de Dieu. Mais je ne te lâcherai pas. Et on connaît tous l'histoire de Lot. Abraham a prié. Il y a des anges qui sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges, à Lot? Va à la montagne. Parce que c'est là où sera ton salut. Et le Seigneur te dit ce matin, va à la montagne. Ne va pas au Mont Guillaume. Hein? La montagne, ça peut être là ce matin, un tête-à-tête avec lui, avec les frères et sœurs. C'est là où sera ton salut. C'est pas dans les plaines du Jourdain, dans le monde où sera ton salut. Ça sera dans la communion fraternelle. Et Moïse, pour combattre Amalek, il est monté sur les hauteurs. Remarquez que dans le livre des Nombres que j'ai cité, chapitre 14, verset 25, il nous est parlé des Amalécites, mais également des Cananéens. Les Cananéens et l'une des tribus qui a essayé également de barrer la route, le passage à Josué, à l'entrée du pays promis. Et vous savez qu'est-ce que veut dire Cananéen ? Déprimé, bas. Le Cananéen habite lui également dans la vallée. Et vous savez ce que c'est une vallée ? Mais là je parle géographiquement, pas spirituellement. C'est le contraire de la montagne, oui. C'est une dépression géographique. Et je crois que si les Cananéens ainsi que les Amalécites habitent la vallée, c'est parce que son œuvre, c'est de nous entraîner vers le bas, pour nous déprimer, et même plus, pour vivre une véritable dépression. Il veut nous entraîner vers le bas. Ça, c'est le travail des mauvaises pensées. Des Cananéens, des Amalécites, il veut que tu restes dans le bas. Il veut que tu sois dans le découragement. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Il veut t'amener dans la dépression. Combien de fois les Amalécites et les Cananéens ont essayé de m'amener vers le bas. Oui, moi, en tant que pasteur. Parce que des fois, on se fait des images du pasteur, où le pasteur ne doit jamais être déprimé. J'espère choquer personne ce matin, je parle avec mon cœur. Je crois que je l'ai déjà raconté un mardi après-midi ou à Vennes, je ne sais plus, cette anecdote. Alors que j'étais dans le ministère, dans une autre ville, et qu'un matin, je me suis levé, où on se gratte un peu la tête. On n'a pas envie de se lever. On a envie de rester allongé et que la journée passe. Ça m'est arrivé. Et pourtant, il y avait tout un programme qui m'attendait ce jour-là. Le matin, je devais aller au marché, distribuer des appels de la vie. Le soir, réunion. L'après-midi, réunion le soir. Et là, je fais, vous savez ce que je fais ? Je m'allonge sur le canapé. Je prends la couette. Je me rendors. Et je vois ma femme. Et Pascal, qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu as vu l'heure, hein ? Je dis, mais aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. J'ai plus envie, j'ai plus le courage, les bras m'en tombent. J'ai envie de rester là, sur le canapé. Et ma femme, comme bonne Marseillaise, mais tu es fou ! Elle n'est pas marseillaise. Hein. Et d'un coup, je me suis dit, allez, vas-y. Je m'habille, je déjeune même pas, et je vais au marché. Et là, je commence à distribuer des appels de la vie. Dieu vous aime. Dieu peut vous apporter le bonheur et la joie, vous savez, avec un sourire comme ça. Impressionnant. Et à un moment donné, il y a une femme sortie de nulle part. Ça a marqué ma vie. Qui vient me voir de type maghrébine. Elle vient me voir et me dit, ce que vous faites, c'est bien, continuez, prenez courage. Et je ne la vois plus. Et vous savez, dans ces grandes villes, je ne cite pas la ville, les marchés, c'est comme ça, hein. Je ne l'ai plus revu. Mais là, il y a une joie qui est venue m'envahir. Je savais que cette femme, elle venait de la part de Dieu. Une joie qui m'a envahi. Et là, les appels de la vie, je les reprenais. Et je disais, Dieu vous aime, Dieu existe, alléluia. Et je les distribuais avec joie. Et je n'avais pas déjeuné le matin, vous savez. Mon ventre commençait à faire... Et à côté, il y a, je ne sais plus qui grille des poulets, je ne vous raconte pas l'odeur. Hein. En face de moi, des belles oranges, des belles bananes. Et j'ai un faible pour les oranges. Et j'avais envie de cette orange-là, et d'une banane aussi. Et Je lui dis, ah Seigneur, ces belles oranges, ces belles bananes quand même. Hein. Et cette femme-là, qui m'avait dit, prenez courage, elle est revenue. Elle m'a donné un sachet. Elle m'a dit, tenez. Et elle est partie. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Des oranges et des bananes. Qui pouvait savoir ça? Si c'est mon Dieu. Mon Dieu existe. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu me relève. Mon Dieu te relève. Alléluia. Donc si l'ennemi veut t'attirer vers le bas, vers le découragement, en disant, tu n'y arriveras pas, il n'y a que des histoires, il n'y a que des problèmes, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Oui, c'est vrai, il y a des histoires, il y a des problèmes, mais mon Dieu est plus grand que tout cela. Alléluia. Et il va nous aider. Parce qu'un jour ou l'autre, on traverse tous la vallée. Et peut-être que tu es en train de traverser cette vallée. Parce que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs vallées. Mais vous savez, il y en a trois qui sont célèbres. La première, c'est laquelle? La vallée de l'ombre de la mort. La Bible nous parle de cette vallée. C'est la plus connue. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Pourquoi? Parce que Jésus marche avec nous, alléluia. Et le jour où on traversera, où on passera de l'autre côté. Moi, je m'en pose des questions. Hein. C'est sûr qu'il y a une appréhension, on ne sait pas. Mais on ne craint rien, parce que si nous persévérons jusqu'au bout, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nos yeux verront Jésus, alléluia. Et je l'ai dit ça, un mardi après-midi également ici, je m'en rappelle, comment ça sera là-haut dans le ciel? Et je suis comme un enfant, moi. J'aime poser beaucoup de questions. Et j'irai voir le Moïse là. Alors cette bataille, raconte-moi là. Dis-moi, comment tu as fait? Mais le plus bel instant, le plus beau moment, c'est le jour où mon Sauveur s'approchera. Bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton Maître. Alléluia. Après, il y a une deuxième vallée qui est célèbre également. Je ne sais pas quelle heure on finit. D'accord. Laissez-moi encore 2 heures. Non, j'arrive à la fin. La vallée de Baca, ma femme a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. Le psaume 84, verset 4, verset 6 à 7, il nous est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment, et là je dis gloire à Dieu, un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions, la vallée des pleurs. » On ne l'a jamais traversée celle-là, hein. La vallée des pleurs. Et bien souvent, nous traversons cette vallée à cause d'une situation délicate. On pleure pour nos enfants, on pleure pour nos familles inconverties, on pleure pour nos voisins. Tant de choses ici-bas qui nous font pleurer, la maladie, tant de choses qui sont là. Mais moi, je m'accroche à cette promesse qui est là. Quand je traverse la vallée de Baca, mon Dieu la transforme. Un lieu de réjouissance, un lieu plein de sources. Alléluia, mon frère, ma sœur, ton Baca va se transformer en lieu plein de sources. Et si ce n'est pas ici-bas sur cette terre, c'est là-haut dans le ciel. Ne l'oublie pas cette espérance. Parce que lui-même, Jésus, essuiera toutes larmes et toutes tes larmes. Amen. Et la troisième, c'est la vallée d'Achor. Ah, celle-là, elle est un peu moins connue. On la rencontre dans Josué 7, versets 24 à 27. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui, tout Israël le lapida. » Oula. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Achor à cause de la désobéissance d'un homme. Ils sont allés attaquer une ville, ils ne devaient rien prendre, mais un homme, par la convoitise, a pris ce qu'il ne fallait pas prendre et va troubler tout un peuple. Et là, ce récit nous est parlé de la vallée d'Achor, la vallée des tourments. Parce qu'Achan avait troublé la paix d'Israël à cause de son péché. Cette vallée va s'appeler la vallée d'Achor. Mais moi, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est dans Osée 2, verset 15, où on nous dit « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. » Cela me fait dire que nous étions tous sous la malédiction, sous la colère de Dieu, à cause de notre péché, peut-être à cause de notre convoitise, mais dans cette vallée de tourments, il y a une porte d'espérance qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a de l'espérance pour toi ce matin. Tu es peut-être dans les tourments, tu es peut-être dans ton péché, mais rentre par cette porte d'espérance qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et j'arriverai à la fin. Amalek a été vaincu par un redoublement d'efforts dans la prière. Remarquez que Moïse n'a pas dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combat Amalek, ensuite tu viendras me faire un rapport. » Non, il y est allé lui aussi au combat. Il y est allé lui également se retrousser les manches. Il y est allé en haut de la montagne pour intercéder, pour prier. Il y est allé. C'est vrai qu'il y avait Josué dans la plaine, mais il y avait également Moïse. Et l'un ne va pas sans l'autre. Une église doit évangéliser, une église doit également prier. Et moi, là où ça a attiré mon attention, c'est que dans ce texte, Exode 17, verset 12, il nous est dit « Les mains de Moïse étant fatiguées ». Il ne nous est pas parlé de Josué étant fatigué. Pourtant, l'épée, vas-y, le bouclier, tout ça, c'est fatigant, c'est usant. Et pourtant, il nous est dit que c'est les mains de Moïse qui étaient fatiguées. Je crois que c'est toujours plus fatigant d'aller à la réunion de prière que d'aller peut-être évangéliser, je ne sais pas. Mais cela me fait dire que la réunion de prière, il y a des combats, vous ne pouvez pas vous imaginer. Surtout quand le mardi soir, enfin, je ne sais pas quand est-ce la réunion de prière ici, vendredi soir. Le vendredi soir, quand il y a, je ne sais pas moi, France Islande, c'est demain, je le sais. C'est ce soir. Ah oui, ce soir. Je suis hier encore, moi. C'est ce soir. Quand on est en vacances, croyez-moi, il ne faut pas partir trop longtemps. Bon, enfin. Je me rappelle toujours de cela. Je l'ai raconté, je crois. Je ne vais pas parler de Francis Land, mais je vais parler de Real de Madrid, Juventus. Et c'était finale de la Ligue des Champions. Et vous connaissez mon amour pour le football. Dieu m'a libéré. Alléluia. Et le mardi soir, il y avait réunion de... Ou c'était un mercredi, je ne sais plus. Réunion de prière. Quel combat! Quel combat! Jeune converti, hein? Mais quel combat! Dans ma tête, je disais, et je parlais au Seigneur, j'essayais de discuter avec le Seigneur. Seigneur, les réunions de prière, c'est tous les mardis. Mais ce match-là, c'est peut-être une fois dans ma vie. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Mets-moi la paix, que je ne sois pas troublé. L'une des plus belles réunions de prière que j'ai passées, ça a été ce mardi soir, mercredi, je ne m'en souviens plus. Et je bénis le Seigneur. Pas parce que Real Madrid a gagné. Parce que j'ai été touché par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu traverses des vallées. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a ton baka. Peut-être même qu'il y a la vallée de l'ombre de la mort. Parce que tu crois que tout est perdu. Mais n'oublie pas cela. Persévère. Parce que nous avons un Dieu d'espérance. Un Dieu qui n'a pas dit son dernier mot pour ta situation. Que Dieu te bénisse. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, que tu es dans cette vallée des tourments, la vallée d'Acan, rentre par cette porte d'espérance. Parce que lui va t'enlever tous les tourments. Et plus particulièrement la colère de Dieu pour la paix éternelle. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es présent au milieu de nous. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ta présence. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses bénir puissamment, Seigneur. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la vallée, Seigneur, des pleurs, dans la vallée des tourments, dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, nous croyons et nous te prions, car nous savons que tu es un Dieu de victoire. Mais Seigneur, tu nous encourages à persévérer, tu nous encourages à lever les mains vers toi, tu nous encourages à aller à la montagne, c'est ce que nous faisons ce matin. Que tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui passent par le deuil, ceux qui passent par la maladie, ceux qui passent par les difficultés. Je t'en supplie dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.